Bien, livre des juges, et nous étions la dernière fois en train de regarder à ce chapitre 2, hein, du livre des juges, où nous avons, hein, ce sorte de prologue, hein, sur les 350 années, hein, de cette période des juges en Israël. Et malgré, hein, après la mort de Josué, malgré une certaine continuité avec les anciens d'Israël, hein, dans la voie du Seigneur, on voit que bien vite, les enfants d'Israël se sont rapidement détournés de Dieu. Ils ont adopté des pratiques, des religions païennes les entourant, et en désobéissant ouvertement à la loi de Dieu, eh bien, cela a provoqué l'irritation de Dieu, provoqué la colère de Dieu. Et donc, on a dans ce chapitre 2, donc ce prologue, hein, des différents événements. Hein, sur cette période du livre des juges. Alors, on avait vu un petit peu déjà une partie, hein, de ce chapitre 2, le début, et on avait vu déjà aussi les versets, bon, les versets 6, hein, jusqu'à 13, où on a un aperçu, hein, de ce déclin spirituel en Israël. Eh bien, les versets suivants, eux, nous dévoilent comment l'Éternel a traité avec eux, comment il a agi envers ce peuple infidèle. Mais je crois que ça nous montre surtout beaucoup de choses sur le caractère de Dieu à travers ses actions vis-à-vis d'Israël. Rappelez-vous que cette nouvelle génération avait adopté un comportement récurrent, hein, tout au long du livre. Hein, on voit que, bon, ils ne connaissaient ni l'Éternel, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient fait pour le peuple d'Israël, et ils se sont adonnés, hein, à la religion païenne, ils ont abandonné Dieu, ils ont adoré Baal et les autres divinités, les Astartés, etc. Et cela a provoqué la colère de l'Éternel. Et l'Éternel, on va le voir, va livrer Israël à ses ennemis, et dans leur détresse, Dieu va susciter des juges pour les libérer, pour les sauver. Mais à chaque fois que ce juge venait à disparaître, eh bien, le peuple retombait dans l'infidélité, la désobéissance, l'idolâtrie. Donc, on a une sorte de cycle, une sorte de cycle que l'on voit à travers le livre des juges. On a déjà un peu parlé de cela, mais il y a une période de paix et de prospérité, parce que Israël obéit à Dieu, bénéficie de ses bénédictions, de sa protection. Et ensuite, il y a quelque chose qui se passe. Hein, il y a probablement de l'orgueil, hein, au cours de cette prospérité durable. Israël oublie facilement, hein, la source de ses bénédictions. Elle néglige de témoigner de la gratitude envers Dieu, d'enseigner la loi de Dieu à ses enfants. Il y a, eh bien, l'entrée dans le paganisme, hein, Israël qui se tourne vers les faux dieux. Il y a le châtiment de Dieu qui s'ensuit, hein, parce que Dieu ne laisse pas impuni le péché, ni l'infidélité. Et donc, il va permettre à d'autres nations de venir et bon, faire du mal à Israël. Puis, il y a un moment de repentance, de pénitence, hein, après avoir beaucoup souffert. Israël, tout d'un coup, se souvient du vrai Dieu, et se tourne vers lui, l'implore, hein, et pleure et gémit devant l'Éternel. Et l'Éternel va montrer sa grâce, il va pourvoir, hein, en réponse à la repentance du peuple, et il envoie un juge qui va libérer le peuple, secourir Israël, et on retrouve une période de paix et de prospérité, et on en revient donc à ce cycle du début. Mais à travers le livre des juges, voilà, on a ce cycle qui, je crois que c'est bien pire qu'un cycle en fait, hein, c'est plutôt une spirale qui descend. Et dans les versets donc 14 à 23, eh bien, dans ce passage, on voit comment l'Éternel donc traite le peuple d'Israël, mais on voit surtout le caractère de Dieu. Et on va juste prendre le temps quand même de lire ces versets à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent, et il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père et n'obéirent point comme eux, au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant vers d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué et ne se hâta point de les chasser. Alors ce soir, on ne va pas voir forcément tous les versets en détail, mais j'aimerais quand même qu'on regarde le plus possible à ces versets pour voir le caractère de Dieu à travers ses actions envers un peuple infidèle, un peuple idolâtre. Et je crois que la première chose que l'on a lue, nous saute aux yeux, c'est ce verset 14, c'est la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. C'est la terrifiante et juste colère de Dieu dans les versets 14, 15 et même plus loin au verset 20. Quand on regarde au livre des Juges, on voit que c'est quelque chose qui va être récurrent. C'est que le peuple d'Israël va provoquer cette colère de l'Éternel par leur infidélité, par leur idolâtrie. L'auteur avait déjà, au verset 12, mentionné ce qui avait provoqué la colère de Dieu. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux. Et à la fin du verset, ils irritèrent l'Éternel. Donc, il y a cette notion de colère et d'irritation que l'on voit dans le caractère de Dieu lorsque ses enfants se détournent de lui, lorsque ses enfants non seulement se détournent de lui, mais le rejettent de la manière la plus véhémente possible, la plus horrible possible par rapport à Dieu, c'est-à-dire en allant vers les idoles. Alors cette colère de Dieu, cette sainte colère de Dieu, elle est importante à souligner. Bon, on sait que la colère, on la définit comme une réaction émotionnelle à une injustice vécue. Les êtres humains, nous tous, tout comme Dieu, nous exprimons la colère. Et cette colère, elle existe parce que, oui, souvent nous estimons qu'il y a une injustice, c'est pas normal et ça nous met en colère. Et souvent, nous, humains, généralement, c'est surtout l'injustice que l'on vit, nous, pas forcément l'injustice que les autres vivent. Mais il y a cette grande différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes, c'est que la colère de Dieu, elle est liée à qui il est, à sa sainte nature. La colère de Dieu, elle est sainte, elle est pure, elle est parfaite, et elle est toujours justifiée. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est omniscient, il sait toutes choses, et il sait que par rapport à nous en tant qu'êtres humains et en tant qu'êtres pécheurs, l'Éternel, il sait tout à notre sujet. Là où nous pourrions nous mettre en colère vis-à-vis de quelqu'un, nous ne connaissons pas toute la situation. Nous ne comprenons pas, nous ne connaissons pas le cœur de ceux qui ont agi. Dieu, lui, connaît le moindre détail de notre vie. Il connaît les choses les plus profondes, au fond de notre être, de notre cœur. Et donc, la colère de Dieu, elle va toujours être sainte, elle va toujours être justifiée. Et celle des hommes, malheureusement, elle n'est pas toujours sainte et elle est rarement justifiée. Mais dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de la colère de Dieu, on sait que c'est une réponse divine aux péchés qui ont été commis, à la désobéissance des hommes. Dieu ne se met pas en colère juste comme ça parce que y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas comme si nous, il y a le café qui est trop froid et puis ce n'est pas possible qu'il soit froid. Bon, Dieu n'est pas comme ça. La colère de Dieu contre le péché, contre la désobéissance, comme j'ai dit, elle est entièrement et parfaitement justifiée du fait de qui il est. Il est Dieu, il est saint, il est parfait, il est omniscient, il sait toutes choses. Et Son plan pour l'humanité reflète tout son caractère. Et quand il a face à lui des êtres rebelles, oui, il a raison d'être en colère, parce qu'il les a créés pour quelque chose de bien plus grand et bien meilleur que ce que nous, êtres humains, nous pensons ou imaginons. Et il a prévu un plan pour l'humanité qui va au-delà de ce que nous pouvons même imaginer, hein, pour notre vie. Et quand il voit tout ça être gâché par le péché, et un péché en plus voulu par l'être humain, oui, sa colère, elle est justifiée. Mais on voit aussi dans les Écritures que Dieu y prévoit toujours un moyen d'obtenir, bien de sa part, le pardon. Et ce moyen, c'est toujours la repentance. C'est toujours le fait de prendre cette décision de faire marche arrière par rapport au péché, de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu. Hein, c'est de vraiment changer, hein, de vie par rapport au péché. Dans le Nouveau Testament, on retrouve cette colère. Hein. Souvent, les gens, ils ont cette notion, ah, oh, dans l'Ancien Testament, on a vraiment un Dieu de colère, c'est terrible, etc. Ça fait peur. Mais on retrouve ce même Dieu de colère dans le Nouveau Testament. Et je vois pas pourquoi il serait différent, parce que la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Donc ce même Dieu de sainteté, de justice, qui, ça ressort beaucoup de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et puis de colère aussi. On retrouve dans le Nouveau Testament. Hein, quand on prend par exemple l'histoire de l'homme riche, de Lazare, hein, on voit le jugement de Dieu qui est mis en place. Hein, cet homme est jugé par rapport à sa vie. Cette colère de Dieu, il est question aussi de cette colère dans des passages comme Jean chapitre 3, hein, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais quoi? Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc la notion de colère de Dieu, elle est présente partout dans la Bible. Hein, celui qui croit au Fils, il va pas subir la colère de Dieu. C'est ce que l'Évangile nous dit. Celui qui croit au Fils, c'est-à-dire qui s'est repenti de ses péchés, placé sa foi en Jésus-Christ, la colère de Dieu n'est plus sur lui. Pourquoi? Parce que la justice de Christ s'est appliquée à notre vie. Et autrefois, nous étions enfants de colère, mais en Christ, nous sommes des enfants adoptés, hein, de l'Éternel. Et donc ceux qui ne croient pas au Fils, hein, qui ne le reçoivent pas comme sauveur, hein, seront, nous d'un point de vue humain, on dit malheureusement. Malheureusement, ils seront jugés, hein, sous la colère, au jour de la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu, oui, on peut la qualifier comme quelque chose de redoutable et de terrifiant. Hein. Je crois que quand on prend vraiment le temps de comprendre l'étendue, hein, de la colère de Dieu envers le pécheur, c'est terrifiant. Mais quand on regarde les choses d'une perspective, ben, de Dieu, quand on regarde les choses par rapport à la loi, ben, cette colère, elle reste juste. Donc oui, là, la colère de Dieu s'enflamma contre Israël et il livra Israël entre les mains des pillards, hein, qui les dépouillèrent de leurs biens matériels. Et ça, j'ai trouvé vraiment intéressant. Pourquoi? Ben, parce que quand ils sont rentrés dans la terre promise, hein, l'idée de la terre promise pour eux, déjà, c'était que, ben, on le sait, c'est un pays où coule le lait et le miel. On ne sait pas dire littéralement, il y a des ruisseaux de lait, etc., et de miel. C'est une image pour parler que c'est un pays qui est riche en ressources, qu'il y a de quoi prospérer, il y a de quoi bien vivre, et ça, c'était à leur portée de main. Et peut-être que c'était là la racine du problème spirituel en Israël à ce moment-là. C'est que ils étaient peut-être tellement habitués à avoir cette richesse, cette prospérité de bien vivre, qu'ils en avaient oublié qui avait gracieusement accordé cela au peuple d'Israël. Quand Paul écrit à Timothée dans sa première épître, il nous rappelle le danger justement de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Dans le chapitre 6, les versets 6 à 11, Paul il dit à Timothée, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, quel que soit le chemin que ce peuple d'Israël a emprunté, à cause de leur infidélité, à cause de leur rejet de Dieu, eh bien, la justice que Dieu va appliquer, le châtiment qu'il va appliquer, eh bien, c'est que vous n'allez plus bénéficier de ces choses. Ces bénédictions que j'avais pour vous, dans la mesure où vous obéissiez, dans la mesure où vous agissiez comme vous deviez agir, eh bien, maintenant, ces bénédictions, je les retire. Et donc, Israël a été averti plusieurs fois. Dans les serments, dans les alliances conclues avec l'Éternel, il y avait toujours cette condition-là. Il y avait toujours cette condition, mais si vous péchez, si vous faites ceci, alors les conséquences seront là. Et là, la conséquence, c'est que oui, l'Éternel va les livrer entre les mains des pillards, et Israël perd ses bénédictions matérielles. Mais pas que cela, n'est-ce pas? Parce que l'Éternel va les livrer entre les mains d'ennemis, afin qu'Israël ne puisse plus résister et que les enfants d'Israël perdent à la fois leur possession, mais également leur paix, leur sécurité, leur force. C'est-à-dire que dans la colère de Dieu et dans sa justice, il va agir pour que Israël se retrouve dans cette situation où ils étaient avant, au tout début, où ils se rendent compte que on a besoin de l'Éternel, on a besoin de lui. L'idée que l'on voit ici, lorsque l'Éternel dit qu'il va les vendre entre les mains des autres nations, etc., on a cette image de l'esclavage. Et c'est pas que Dieu était pour l'esclavage ou quoi que ce soit, mais c'était pour exprimer la gravité des actions du peuple d'Israël, la gravité de la situation, de la colère de Dieu, de son mécontentement, qui laisse paraître dans ce châtiment qu'il inflige à son peuple. Alors bien naturellement, la réaction du peuple fut la même que celle de n'importe quel d'entre nous, n'est-ce pas? Ou même n'importe quel enfant qui exprime eh bien, des pleurs, qui va exprimer de la tristesse lorsqu'il est repris, lorsqu'il est grondé, lorsqu'il est puni par ses parents. Verset 15. Ils furent tous dans une grande détresse. Là, ils se rendent compte, on a tout perdu, qu'est-ce qui nous reste? Ah oui, mais il y a l'Éternel, mais pourquoi il est passé où l'Éternel? Pourquoi il n'est plus là? Et il y a cette réaction qui est produite dans la pensée du peuple d'Israël par rapport à leur situation qu'ils vivent, parce que graduellement, ils se sont détournés de Dieu et ils sont arrivés à un point où ils étaient tellement loin de Dieu que Dieu a dit, ok, c'est fini maintenant. Vous voulez faire ça? Ben maintenant, débrouillez-vous. Vous allez voir ce que c'est que la vie sans ma grâce, sans mon aide. Et donc, les alliances et les promesses de Dieu, il faut bien comprendre qu'elles sont toujours liées à sa personne. Il est saint, il est bon, mais c'est lié surtout à l'obéissance de l'être humain. La désobéissance va toujours causer la perte de bénédiction que Dieu y prévoit pour ses enfants. Et elle peut également, dans certains cas même, causer la perte de sa protection. Lorsqu'on a des chrétiens qui s'entêtent dans leur péché, il y a la perte de bénédiction, mais il y a aussi des moments où Dieu va dire, bon, ben maintenant je vais te laisser subir les conséquences de tes choix. Et ceux qui s'étaient entêtés, dans la pratique, de péché, ont fini même parfois recevoir la conséquence de leurs actes dans leur corps, dans une santé diminuée, que ce soit des plaies ou le dépérissement de leur corps, ou comme Paul le souligne dans Romains 1, 27, ils recevaient en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est-à-dire qu'il y a une causalité entre le péché, certains péchés, et le fait que Dieu va... Bah, vous voulez voir ce que ça fait, ce péché-là? Vous allez voir toutes les conséquences de ce péché-là. Et d'ailleurs, quand Paul en parle, il parle de cela comme un salaire. Le mot salaire, ça indique une juste rétribution. C'est-à-dire, tu as agi pour ça, maintenant tu reçois ce pour quoi tu as agi. Et donc l'application de la justice de Dieu va toujours être méritée. Ce qui n'est pas mérité, en revanche, c'est ce qu'on lit dans les versets suivants. Verset 16. Verset 16, nous voyons la touchante miséricorde de Dieu envers ce peuple rebelle. Hein, parce que, en voyant cette grande détresse, verset 16, l'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. D'accord? Dieu va toujours remplir sa part de l'alliance. Toujours. Hein, et cette part, on le sait, bon, ça va être la part qui n'est pas soumise à la condition, hein, des êtres humains, à leur obéissance. Hein, quand Israël désobéissait, eh bien, Dieu avait légitimement le droit d'interrompre ses bénédictions, de laisser Israël, hein, dans sa misère spirituelle pendant un certain temps. Mais Dieu continuait tout le temps de montrer sa miséricorde et sa grâce. Hein, il n'est pas resté aveugle à la détresse de son peuple, il n'est pas resté sourd à ses pleurs et à ses lamentations. Non, Dieu est un Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde et de compassion. Et contrairement à ce que feraient la plupart des êtres humains dans une telle situation, Dieu n'a pas abandonné Israël dès les premiers signes d'infidélité. Hein, souvent, dans les relations humaines, dès qu'il y a une infidélité, dans la grande majeure partie de tous ces cas-là, il y a une rupture. C'est-à-dire qu'il y a même plus, dans la pensée, et puis surtout dans le cœur des gens, il y a même plus la possibilité de restauration, il y a même plus la possibilité de pardon et de réconciliation. C'est même en dehors de leur concept qu'une fois que tu as été infidèle avec moi, c'est fini. Mais alors absolument fini. Dieu n'est pas un être humain. Dieu, il agit toujours selon qui il est. Un Dieu bon, juste, saint, et lui, il demeure fidèle. Un des siècles plus tard, l'Éternel, par la bouche du prophète Osée, va exprimer cela par la vie d'Osée. Hein, il va prendre la vie d'Osée pour imager ça. Mais il y a ces versets dans Osée 11 qui... Moi, ça m'a un peu sauté aux yeux par rapport à ce que nous lisons ce soir, hein, dans ce livre des juges. Bon, Osée, c'est bien plus tard, hein. Mais Osée chapitre 11, verset 7, il dit déjà, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Okay? Donc ça, c'est le penchant naturel de l'être humain de s'éloigner de Dieu et même parfois de ceux qui appartiennent à l'Éternel. Même parfois les chrétiens peuvent être enclins à s'éloigner de Dieu. Il dit ensuite, bon, on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mais c'est ce verset-là, la fin du verset. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Ça, c'est le caractère de Dieu, même face à notre infidélité. Ça, c'est le caractère de Dieu. C'est cette même compassion, cette même émotion que on va lire des siècles plus tard. Matthieu, chapitre 9, verset 36, le Seigneur Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. La rébellion, le péché, nous rendra toujours languissants et abattus. Perdus. Mais gloire à Dieu, parce que lui ne change pas. Et quand on sait cela, quand on sait que son amour ne change pas pour nous, parfois on a l'impression que son amour il change pour nous, mais la question à se poser c'est, qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je commis un péché qui fait que j'ai peut-être une perte de bénédiction? Hein, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ou peut-être que Dieu m'éprouve pour que moi je puisse voir où j'en suis dans ma foi. Mais toujours est-il, l'amour et la grâce de Dieu ne changent pas. Il reste le même. Dans le psaume 106, on a un résumé un peu de l'histoire d'Israël vis-à-vis de l'Éternel. Et il y a une portion, hein, de ce psaume qui parle de cette période, hein, du livre des juges. Et au verset 43, nous lisons plusieurs fois, il les délivra. Mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein, ils devinrent malheureux par leur iniquité, il vit leur détresse lorsqu'il entendit leurs supplications, il se souvint en leur faveur de son alliance, il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. C'est-à-dire qu'on a un Dieu de compassion qui va agir avec compassion. Mais dans sa grâce, voilà, Dieu envoie des juges. Dans sa miséricorde, Dieu envoie des juges. Dans quel but? Dans le but de les délivrer. Il va susciter donc ses libérateurs pour délivrer le peuple de cette situation dans laquelle ils se sont mis. Certes, c'est le jugement de Dieu, mais c'est eux qui se sont mis dans cette situation-là. Et Dieu va susciter parmi eux, eh bien, une personne qui va libérer ce peuple de l'oppression. Quelque part, quand on regarde à ces juges et à leur action en tant que libérateur du peuple, on ne peut pas s'empêcher de voir là aussi une sorte de préfiguration de Christ. C'est-à-dire qu'on a des personnes que Dieu va susciter dans un peuple qui est rebelle, susciter des personnes avec l'objectif de les libérer. N'est-ce pas pour cela que Christ est venu? Pour libérer son peuple de ses péchés? Le péché étant la plus grande détresse de l'humanité, la plus terrible situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est le péché. Et bien tristement, comme à l'époque de Christ, Israël, ici, n'a pas répondu à la grâce de Dieu, à sa miséricorde, pas plus qu'à son jugement. Ce qu'on va voir également un peu plus tard, et je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir, c'est à partir du verset 17. Eh bien, l'étonnante patience de Dieu, n'est-ce pas? Donc, on voit un Dieu qui est en colère, mais qui agit avec justice. On voit la miséricorde de Dieu quand on a, eh bien, un peuple qui, finalement réagit après avoir été averti, qui n'avait pas écouté, après avoir perdu les bénédictions. Bon, ils n'écoutaient pas forcément toujours. Après avoir subi l'oppression des peuples autour, et finalement, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous, délivre-nous. Et Dieu n'est pas un Dieu sourd. Dieu n'est pas un Dieu qui va rester dans cette colère et agir avec mépris vis-à-vis de ceux qui sont comme ça. Non, parce qu'il veut voir la repentance. Et cette étonnante patience de Dieu, c'est la même que nous avons aujourd'hui. Un Dieu use de patience envers tous parce qu'il veut que tous les hommes puissent venir à la repentance. C'est le même message dans l'Ancien Testament que l'on va retrouver dans le Nouveau Testament par rapport à Dieu, par rapport à son caractère, par rapport à l'être humain pécheur et ce que Dieu veut pour lui, ce que Dieu a accompli pour lui. Et cette patience, elle est là également. On va juste s'arrêter là pour ce soir. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous regarderons à cette patience de Dieu et puis nous continuerons à travers ces différents versets.